Bonjour à tous. Cet après-midi, on va continuer le cours sur les systèmes de redox flow, c'est-à-dire les systèmes à flux circulant, et on va voir les aspects pratiques et également les aspects photorechargeables de ces systèmes. Alors, tout d'abord, un rappel de ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on avait passé en revue tous les différents systèmes de redox flow. Ça, c'était le système classique, c'est-à-dire les redox flow vanadium. On avait vu également des redox flow semi-solides, dans lesquels, vous avez, dans ce cas, on n'a plus directement un liquide comme un catholyte ou anolite, mais on va utiliser dans ce cas des encres. Et ça, ça avait été un procédé qui avait été développé par le MIT. Ensuite, on avait vu des systèmes dans lesquels on pouvait utiliser des médiateurs redox, où dans ce cas, eh bien, on allait tout simplement injecter dans ces récipients différentes sortes de molécules qui faisaient en sorte que seul le liquide allait passer dans le centre actif de ce système redox flow. Ensuite, on avait regardé des redox flow alcalins. C'était des travaux qui avaient été faits par John Godinoff, qui utilisait en ce cas une électrode négative de lithium, et dans lequel on utilisait, comme vous pouvez voir ici, du potassium, de ferrocyanure de potassium, et ainsi de suite. Enfin, les deux derniers systèmes que l'on a vus, c'est des systèmes sans membrane, du moins un. C'était les systèmes au plomb, dans lequel, dans ce cas, on avait tout simplement un dépôt de plomb à l'anode et, dans le cas de PbO2, à la cathode, pour avoir un système qui performe, je dis, relativement bien. Enfin, on avait utilisé ou vu les problèmes de redox flow avec des membranes multiples, et on va revenir dessus aujourd'hui en prenant des membranes plutôt qui sont utilisées pour la dialyse. Donc voilà directement les systèmes qu'on avait vus, et la règle du jeu était la suivante, c'est-à-dire qu'il faut augmenter l'énergie volumétrique de ces systèmes. Et pour ce faire, eh bien, l'équation qui est indiquée ici, on a différents paramètres, que sont N, qui est dans ce cas le nombre d'électrons, qui est Ca, qui est la concentration, F, qui est la constante Faraday, V, qui est le potentiel, et N, qui va être exactement la somme des volumes, c'est-à-dire des conteneurs, soit la positive, soit la négative. Donc, par conséquent, la règle du jeu, ça va être d'augmenter la concentration et le potentiel, et bien sûr de diminuer le volume pour faire en sorte d'avoir des systèmes plus compacts et qui ont des capacités volumiques plus importantes. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cet exposé, c'est-à-dire on va avoir trois sections. La première va concerner des molécules organiques et voir ce que les molécules organiques ont apporté à ces systèmes redox flow. Ensuite, on regardera où on se consacrera plutôt sur des systèmes à base de polysulfure, diode et diodure, pour terminer finalement sur tout ce qui est le photorechargeable. D'où on va recommencer à regarder les composés organiques, et là aussi, je dirais, l'introduction de molécules organiques dans un accumulateur n'est pas d'aujourd'hui, puisqu'il y a eu des travaux, je dirais, conséquents qui ont été faits dans le cas des batteries lithium-ion, dans lesquelles on avait utilisé dans le passé pas mal de composés, de quinones, ou alors directement des carboxylates pour électrodes positives ou électrodes négatives, avec, comme vous voyez ici, des molécules qui sont renouvelables, c'est-à-dire qu'on peut directement extraire de la biomasse. Alors, l'avantage de ces systèmes organiques, je dirais, ils sont nombreux, c'est-à-dire qu'ils sont bien sûr attractifs vis-à-vis de l'environnement, car les matériaux sont abondants et recyclables, mais, je dirais, le mauvais côté, c'est qu'ils ont une faible densité, ce qui fait que leur performance en énergie volumique va être relativement faible. Et le problème qu'on avait dans le cas des batteries à ion lithium, c'était la solubilité, finalement, de ces composés organiques ou de ces molécules organiques. Eh bien, on va voir, on va retrouver les mêmes molécules, plus ou moins dans le cas des batteries redox flow, où on va voir également toute cette richesse, je dirais, de la chimie organique pour construire, concevoir, dessiner de telles molécules en imitant les fonctions propres. Et là, si vous voulez, la solubilité va être un avantage pour nous puisqu'on va essayer directement de faire des solutions où la règle du jeu va être directement d'augmenter la quantité d'organique qu'on va pouvoir dissoudre dans ces mélanges. Mais bien sûr, la question va être de trouver la bonne molécule avec la bonne solubilité, la bonne stabilité et pas mal de paramètres requis. Donc, par conséquent, eh bien, on va jouer sur différentes sortes de molécules. On va tout d'abord essayer de regarder le poids de la molécule et de faire en sorte qu'il soit faible. On va ensuite regarder les problèmes de solubilité avec les molécules symétriques qui présenteront un avantage. On va ensuite regarder au niveau des molécules, certaines larges molécules qui ne vont pas créer de problème au travers de la membrane, c'est-à-dire qui ne vont pas diffuser au travers de la membrane séparant le catholyte et l'anolyte. On va prendre, bien sûr, si l'on peut, des systèmes à multi-électrons pour avoir davantage de capacité, et enfin, finalement, des systèmes hautement solubles. D'où par conséquent, c'est grâce à cela qu'on va essayer de dessiner toutes ces sortes de molécules pour utiliser un système redox flow. Et bien sûr, les molécules éligibles sont celles qui auront passé, bien sûr, tous ces tests. Et ces tests vont être nombreux. Ils vont être au niveau de l'activité redox, il faudra faire la voltammétrie, au niveau de la rétention de capacité, de la densité d'énergie, de la stabilité, avec le tout, finalement, intégré dans un système, je dirais, une pile redox flow, une batterie redox flow, et qui fonctionne en état dynamique plutôt qu'en état statique. Et vous allez voir que dans la plupart des travaux dans la littérature, les gens s'arrêtent à la partie statique et ne vont jamais à la partie dynamique, ce qui fait que les chiffres ou les performances sont difficiles à évoluer. Donc, par conséquent, ce qu'on va voir maintenant, c'est quelques systèmes, pas tous bien sûr, qui ont, je dirais, fait la une de certains journaux ces quelques dernières années. Les premiers travaux, les plus innovants, qui ont déclenché, si je peux dire, cela, c'est les travaux qui datent de 2014, qui ont été publiés dans Nature, où, dans ce cas, des chercheurs ont tout simplement développé le système quinone-hydroquinone avec, dans ce cas, le brome comme électrode positive indiqué ici. Vous avez ici, tout simplement, la cyclovoltammétrie dans le cas de ces molécules, de ces anthraquinones, qui sont directement des purs anthraquinones ou des doubles hydroxydes. Et ce qui se passe, c'est chaque fois que vous allez mettre un groupe hydroxyde, vous allez directement déplacer le potentiel aux alentours de 50 millivolts vers le plus bas potentiel. Alors les avantages des quinones, c'est qu'il y a une multitude qui proviennent directement, la plupart, de la biomasse. C'est des systèmes qui peuvent avoir des réactions à deux électrons. C'est des molécules qui sont de grande taille, ou par conséquent peu propices à avoir, je dirais, cet échange au travers de la membrane. Et enfin, dans ce cas bien particulier, ces molécules ont été choisies car elles sont stables vis-à-vis, tout simplement, des solutions électrolytiques de brome ou de HBr. Alors, les systèmes ou le système qui a été construit est indiqué ici. Et vous allez voir souvent ces photos durant ce cours, dans lequel on voit toujours pareil le catholyte et l'anolyte. Et ce que j'ai tracé en dessous, rappelez-vous, la valeur qui est relativement importante dans ce cas, c'est tout simplement la densité de courant. Et vous voyez qu'on peut obtenir quand même des densités de 600 000 watts par centimètre carré, qui est, je dirais, à comparer avec les 1 watt qu'on peut avoir tout simplement des piles à combustible. Mais on peut ainsi obtenir des systèmes qui, en termes de performance, sont, je dirais, ou comparent favorablement avec le cas des batteries redox flow au vanadium. Mais la difficulté qu'on peut voir ici, c'est que le brome est un élément qui est volatile, un élément corrosif, et bien sûr, on essaie de le changer. Donc c'est la raison pour laquelle on va le changer par cette molécule de ferrocinium, comme indiqué ici. Et comme on peut voir ici, on peut avoir maintenant cet accumulateur, ou ce redox flow, dans lequel on va avoir l'anthraquinone, toujours pareil comme électrode négative, et ensuite on va avoir directement le ferricyanure de potassium comme électrode positive. Vous avez ici les deux courbes de cyclovoltammétrie qui vous montrent finalement les couples redox et la différence de ces couples redox va être bien sûr le potentiel que vous allez obtenir à la sortie de cet accumulateur. On a un potentiel de 1,1 volt, les densités de courant qui sont indiquées ici et le chiffre qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a des capacités volumétriques qui sont alentours de 6,8 ou des énergies volumétriques, excusez-moi, de 6,8 water par litre, qui est relativement faible. D'où ensuite, il y a eu des évolutions en construisant des systèmes, je dirais, complets, systèmes anthraquinone-quinone. Et vous avez ici un exemple dans lequel on utilise tout simplement l'anthraquinone ou la dihydroxo-anthraquinone, comme mentionné sur ce schéma. Vous avez les potentiels redox de l'hydrobenzoquinone et de l'anthraquinone. On a un potentiel de sortie 0,5 volts, ou 0,45, mais là aussi, vous voyez, potentiel faible et, dans ce cas, également des énergies qui sont relativement faibles de 5 watts par litre. On peut ensuite eh bien, faire évoluer ces systèmes et passer à des systèmes dans lesquels on va maintenant utiliser des radicaux. Et pour utiliser ces radicaux, on va utiliser la molécule TEMPO, qui est le triméthylpipérédine, avec un oxygène radicalaire qui va tout simplement s'oxyder pour donner un oxoammonium, comme indiqué ici. Alors qu'en décharge, eh bien, on a une électrode de lithium qui va bien sûr avoir le retrait et le dépôt de lithium. Dans ce cas, eh bien, on peut obtenir un potentiel relativement élevé de 3,3 volts, puisque, regardez bien ici, on travaille tout simplement dans le cas d'une électrode négative avec le lithium. Et comme auparavant, vous voyez, vous avez un électrolyte organique avec un séparateur qui, dans ce cas, la plupart du temps, c'est des séparateurs céramiques, c'est-à-dire des matériaux fabriqués par Aowara qui sont tout simplement des lysicones. D'où, là aussi, là, on a bien sûr des énergies volumiques qui sont nettement plus importantes, 70 watts par litre, avec bien sûr le fait qu'on travaille avec le lithium métallique et cela pose des problèmes au niveau coût, comme on le verra par la suite. Ensuite, un autre système basé, je dirais, complètement sur des radicaux, c'est le système FL-DB-MMBB. Alors, FL, c'est tout simplement une molécule de la famille des fluorènes. Mais faites attention ici, ça n'a rien à voir avec l'élément chimique, le fluor. Parce que vous voyez que cette molécule ne contient pas du tout de fluor. On l'appelle un fluorène tout simplement parce que sous attiration UV, eh bien, elle va tout simplement donner une fluorescence. Si on regarde les couples électrochimiques, eh bien, on voit que dans ce cas, on a je dirais, un potentiel relativement important de 2,37 volts, avec cependant encore des valeurs d'énergie volumique qui sont aux alentours de 11 watts par litre. De tout ça, si vous voulez, c'est pour vous donner un peu une idée de ce qui se passe dans ce domaine, où un nombre considérable de molécules ont été étudiées, mais à ce jour, ces systèmes présentent certainement un attrait, non pas pour les énergies volumétriques, mais surtout pour le problème de coût qui, lorsqu'on évolue un système aqueux, est relativement intéressant. Alors, une autre application, ou une autre, je dirais, voie pour la recherche de molécules organiques pouvant être utilisées en redox flow, eh bien, provient directement du travail qui a été fait de cela 15 ou 20 ans dans le domaine lithium-ion, où on a utilisé des molécules navettes redox. J'avais traité ça, je crois, il y a 2 ou 3 ans. On utilise ces molécules comme facteur de sécurité dans les accumulateurs à ions lithium, car on a tout simplement une oxydation à très haut potentiel, avec ensuite une directe migration de la molécule qui va être réduite à la électrode négative. C'est ainsi que dans ce cas, lorsque vous allez charger un accumulateur, si vous allez au-delà de la réaction intercalation, eh bien vous allez directement travailler dans cette molécule qui est une navette redox. Eh bien, ces navettes redox, puisqu'elles sont solubles, on va pouvoir les utiliser également dans un système redox flow. Eh bien, vous avez ici la même molécule, qui est une molécule de diméthoxybenzène, dont vous voyez le cyclovoltammogramme, avec un potentiel de 3,94 volts. On va pouvoir, dans ce cas, l'utiliser, le coupler avec une autre molécule qui est la quinoxaline, notamment la molécule en bleu, pour, là aussi, faire, comme vous pouvez voir ici, des systèmes redox flow avec des potentiels de 1,6 à 1,7 volts, mais une fois de plus, avec, je dirais, des énergies volumétriques qui sont relativement faibles. D'où c'est le genre un peu de travail qui se fait en ce domaine. Alors ensuite, eh bien, ces molécules organiques, je vous ai montré ici qu'on a utilisé les molécules organiques la plupart solubles. Ces molécules organiques peuvent être non solubles. Et dans ce cas, Biomba ou certains auteurs ont utilisé, je dirais, la même astuce qui avait été faite auparavant, c'est-à-dire de former des encres. Et c'est le cas dans ce travail où ces molécules, notamment cette molécule de méthylphénothiazine, a été utilisée avec du carbone. Et dans ce cas, c'est relativement intéressant puisque les deux poudres ont été broyées, ensuite portées à fusion, de façon finalement à infiltrer cette molécule organique dans le carbone. Et on obtient ici des composites dans lesquels vous avez un mélange intime de la molécule organique et du carbone, et on peut obtenir dans ce cas, je dirais, des capacités volumiques relativement intéressantes, allant jusqu'à 50 ampères-heure par litre, comme indiqué ici, avec bien sûr des taux de chargement relativement élevés, dans lequel on a 40% de MPT et 5% de KB, c'est-à-dire en proportion, je dirais, massique. Et ça, je dirais, c'est des choses relativement intéressantes, où on peut obtenir même des énergies densités relativement conséquentes. Vous voyez, maintenant, on parle de 190 Wh par litre, et on verra plus tard qu'on peut même aller à des valeurs plus importantes. D'où cela, je dirais, les systèmes les plus intéressants rapportés en ce qui concerne les molécules organiques. Et ensuite, un dernier exemple que je voudrais vous mentionner sur cette partie des molécules organiques qui est relativement intéressante, je trouve, parce qu'il va coupler finalement deux domaines. Et toujours pareil, c'est tout simplement de réaliser des systèmes peu coûteux. Et dans ce cas, eh bien, ça va être un couplage de deux astuces qu'on a déjà vues, c'est-à-dire qu'on va coupler des molécules organiques et on va tout simplement changer de membrane. C'est dans ces systèmes dont on va maintenant utiliser des polymères. Et si on utilise des polymères, automatiquement, on n'a plus besoin d'être sélectif dans le cas de la membrane. Parce que la plupart de ces systèmes redox flow utilisent à ce jour des membranes nafion, puisque c'est des systèmes très oxydants. Et dans ce cas, ces membranes nafion coûtent ou reviennent ou attribuent 40% finalement du coût du système. D'où, par l'utilisation de ces polymères, eh bien, dans ce cas, on peut utiliser des membranes qu'on utilise de façon classique en dialyse pour séparer les différents constituants. Et les polymères qui sont constitués sont relativement intéressants. On va utiliser, toujours pareil, des polymères avec deux fonctions. Il va falloir bien sûr qu'il y ait la fonction, dans ce cas, qui est la fonction redox, où on va avoir une fonction tempo, ici, sur des molécules tempo, ou sur des biologènes, comme indiqué ici. Et ensuite, eh bien, on va tout simplement greffer ça sur des chaînes polymériques, avec également des ammonions quaternaires pour augmenter la solubilité de ces espèces. Et ainsi, on peut avoir des systèmes, je dirais, relativement intéressants, dont vous avez le tracé des variations de potentiel en fonction du temps, et avec, ici, la tenue en cyclage. Et ce qui est intéressant, c'est que ces molécules, eh bien, ont des couleurs, et on peut suivre, finalement, l'état d'oxydation ou l'état de réduction de ces molécules en fonction de l'état de charge ou l'état de décharge. Et ça, je dirais, c'est des systèmes qui sont aujourd'hui en train de développement par une compagnie allemande qui est en train de développer de tels systèmes qui, comme vous pouvez voir ici, ils travaillent avec des solvants aqueux du type NaCl avec, dans ce cas, des énergies volumiques encore faibles, mais ce qui est très important, c'est que le coût. Où on a des polymères, d'abord, très bon marché, ensuite associés à des membranes, je dirais, qui sont, je dirais, 5 à 10% le prix du nafion. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe dans ces systèmes au niveau organique. D'où la partie organique, je dirais, ça a été une direction, ou c'est une direction, de façon à synthétiser ou à préparer de ces systèmes redox flow à bas coût. Une autre direction qui se poursuit aujourd'hui, c'est une direction consistant à utiliser des éléments relativement bon marché dans la nature. Et un de ces éléments qu'on va voir, eh bien, c'est tout simplement le soufre. En effet, le soufre est un élément, je dirais, très très bon marché. Et ici, vous avez directement des piles de soufre, notamment Alberta, qui proviennent, dans ce cas, tout simplement de raffinage du pétrole, et ainsi de suite. Et si l'on considère finalement l'utilisation de ce soufre pour des batteries lithium-soufre, ainsi de suite, eh bien, on aurait, dans ce cas, assez de matériaux pour alimenter toutes les voitures électriques, je dirais, des États-Unis ou de l'Europe pendant 10 ans, si on considère que toutes les voitures réellement passent en électrique. D'où, c'est des, je dirais, des quantités colossales. Et vous voyez ici les prix en US dollars entre les matériaux qu'on connaît bien. Vous prenez le LiCO2 qu'on utilise à lithium-ion, vous voyez qu'en ce cas, vous êtes à 262 $ du kiloampère-heure, alors qu'on est du 0,15 dans le cas du soufre. Donc voilà, si vous voulez, la motivation pour laquelle eh bien, beaucoup de chercheurs sont en train de revisiter cet élément et voir si on pourrait l'utiliser dans le cas de systèmes à flux circulant. Alors vous allez voir que les démarches qui ont été faites vont suivre plus ou moins ce qui a déjà été mentionné le dernier cours ou celui-ci. Vous allez voir, la même méthodologie va s'appliquer. Alors tout d'abord, les premiers travaux ont consisté à, comme indiqué ici, à faire des composites intimes entre le carbone et le soufre. Nous voilà directement le système qu'on va considérer. Dans ce cas, on est dans un système non aqueux avec le lithium et le catholyte va être tout simplement du polysulfure. Alors, polysulfure, eh bien, on va retrouver, pour ceux qui se rappellent des cours de l'année dernière où on avait vu la technologie lithium-soufre, eh bien, là, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va préparer des carbones et on va aller imprégner le soufre à l'intérieur de carbone de façon à avoir une meilleure compacité et par conséquent une meilleure énergie volumique. Donc c'est ce qui a été fait ici, sur ce système, et on voit ici l'avantage de cette technologie en termes d'ampères par litre, par exemple. Vous voyez ici la capacité spécifique en fonction, une fois de plus, du rapport des mélanges, avec 5 portions de soufre, par exemple, pour 12 portions de carbone. Et vous voyez ici les capacités spécifiques et ici les capacités, les énergies volumiques. Et vous voyez qu'on peut obtenir, dans ce cas, des énergies volumiques relativement importantes, allant aux alentours de 280 ampères-heure par litre, et on peut même aller plus haut. D'où, dans ce cas, eh bien, je dirais que cette astuce d'imprégner le soufre dans le carbone permet d'augmenter la viscosité de l'encre, d'augmenter la percolation électrique et également avoir une meilleure viscosité, c'est-à-dire avoir des charges plus rapides, c'est-à-dire une cinétique du système beaucoup plus rapide. Donc voilà ce qui se fait à ce niveau, au niveau du soufre. Ensuite, toujours dans la course à augmenter cette énergie volumique, eh bien, dans ce cas, certains chercheurs ont utilisé, je peux dire, le concept de différents électrolytes. Mais je vous remontre ici cette batterie lithium-polysulfure. En mode statique, vous avez ici un potentiel de 2,4 volts. Et vous voyez ici en mode dynamique. Alors ça, c'est un mode qui se pratique beaucoup pour la bonne et simple raison, c'est que pour réduire la consommation énergétique des pompes lorsqu'on fait un flux circulant. Et dans ce cas, eh bien, on s'aperçoit que ces systèmes sont ou dominent ou dépassent très facilement les batteries redox flow tout vanadium, même également les batteries polysulfure sans l'astuce de cette imprégnation de carbone, où on peut obtenir, comme on peut voir ici, des valeurs de 250 à 300 ampères-heure par litre. Alors, pour augmenter ces valeurs, ce que je vous disais par la suite, eh bien, des chercheurs ont poussé encore le système encore plus loin, c'est-à-dire que maintenant, on va mettre finalement deux espèces. On va faire, si je peux dire, un biélectrolyte. Et qu'est-ce qu'on va rajouter? Eh bien, on va rajouter, dans ce cas, le couple iode-iodure-iode. Et on va, dans ce cas, eh bien, essayer de tirer parti de ces deux couples redox. Et on a dans ce cas ce qu'on appelle multi-redox semi-solid liquid battery, qui est caractérisé par MRSSB. Alors, lorsqu'on fait cela, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On va, dans ce cas, en effet, tirer parti de ces deux couples. Vous avez ici la psychovoltammétrie pour le cas du soufre. Vous avez ici, dans le cas de l'iodure, le triiodure. Et vous voyez que maintenant, si je mets les deux systèmes ensemble, eh bien, on va couvrir un domaine au potentiel et on va pouvoir, dans ce cas, eh bien, augmenter tout simplement la capacité ou l'énergie volumique du système. Et en effet, si on réalise cela, eh bien, on s'aperçoit dans lequel on a l'ADO+ de plusieurs mélanges, vous voyez, on a 3 molars de l'iodure lithium avec le mélange, comme j'ai mentionné auparavant, 5 parts de soufre pour 12 parts de carbone. En rouge, enfin, je change les concentrations. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on peut obtenir des capacités volumétriques relativement importantes, comme indiqué ici. Ou des énergies, capacités. Dans ce cas, eh bien, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est que vous apercevez que si on regarde bien les courbes, eh bien, qu'on a une augmentation de l'activité du couple soufre par l'iodure de lithium. Alors, pour montrer ça plus clairement, Eh bien, on va voir ça dans les transparents suivants. Tout d'abord, je vous montre la performance de ce système en cyclage. Et là, effectivement, vous voyez que l'ajout n'améliore pas beaucoup l'utilisation améliore l'utilisation du soufre, mais pas du tout le cyclage. Vous voyez que dans le cyclage est encore relativement, je dirais, meilleur qu'en ces systèmes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est pourquoi on a une amélioration de la performance du soufre dans un tel système. Vous voyez ici, on a décomposé finalement les deux courbes. Vous avez la courbe totale en haut et on fait la somme de la partie attribuée au soufre seul, à l'iodure de lithium, et on s'aperçoit qu'on a un gain là-dessus. Alors ce gain, eh bien, on va pouvoir l'expliquer comme indiqué ici. Et là, regardez, on le voit très bien. Vous avez les deux courbes. Vous avez le potentiel en fonction de la capacité pour tout d'abord le composé ou la composite ou la catholyte sans iodure lithium, la courbe en vert. Et vous voyez que maintenant, si je mets l'iodure lithium, eh bien effectivement, je vais ici prendre la capacité associée à l'iodure lithium. Vous voyez qu'en ce cas, j'ai une capacité excédentaire. Et finalement, pourquoi finalement 1 plus 1 est supérieur à 2? Et c'est là la question. Et là, on va pouvoir regarder au niveau, on peut supposer qu'il y a des problèmes, qu'il y a un problème de médiation associé au lithium 2S, qu'il y a des résistances interfaciales qui changent, mais la raison, finalement, provient tout simplement du fait que lorsque je vais faire cette oxydation de l'iodure en triiodure, je peux avoir tout simplement formation de l'iode, et cet iode eh bien, va par la suite, comme indiqué ici, pouvoir oxyder le Li2S qui se forme lors de la réduction. Ce qui fait que finalement, je vais régénérer du soufre et la raison pour laquelle je vais, dans ce cas, augmenter ma capacité. Donc, si vous voulez, c'est un peu la raison pour laquelle, bien, dans ces systèmes, on va avoir cette augmentation de capacité associée au rôle positif joué par l'iodure de lithium. Et cela est prouvé, parce que si vous prenez tout simplement Li2S et vous faites une courbe de décharge, vous n'allez rien obtenir. Si vous mettez du lithium 2S en présence d'iode, eh bien dans ce cas, vous obtenez cette capacité qui indique clairement qu'il y a un effet effectivement de l'iode sur Li2S qui va l'oxyder en polysulfure et ensuite ils vont être réduits et ça va conduire à la capacité excédentaire que vous allez obtenir. Maintenant, si on regarde les performances du système en termes de potentiel et de densité au courant, eh bien on a le cas du système dans lequel on a dans le mode directement en circulation, où on peut obtenir aux alentours de 11 MW. Et si on part directement dans le cas de lithium-iode, on a directement de 21 MW. Ce qui veut dire qu'en ce cas, ce qui n'est pas une grande surprise, c'est que le système iodure I-, I3-, est beaucoup plus rapide, a une cinétique beaucoup plus rapide que le système directement associé au polysulfure. D'où, bilan final de tout ça, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, par cette astuce, eh bien, on peut obtenir, je dirais, des capacités en ampère-heure par litre qui sont relativement importantes et qui sont aux alentours, je dirais, de 480 ou 500 mAh par litre. Donc voilà directement ce qu'on peut obtenir avec de tels systèmes. Ensuite, eh bien, on va changer un peu de système et on va tout simplement maintenant quitter, si je peux dire, les systèmes du soufre ou regarder les systèmes du soufre, mais en changeant finalement l'électrode positive. Et on va revisiter ces systèmes du type polysulfure, bromine, et on va voir maintenant quel serait l'apport que puisse apporter l'utilisation de l'iode dans tel système. Et on verra ensuite également quel sera l'aspect bénéfique de l'iode dans le cas du système zinc-bromure. Alors pour ce faire, eh bien, tout d'abord, pourquoi changer, je dirais, d'électrode positive ou de catholyte? Eh bien, pour vous convaincre de cela, j'ai tracé ici le potentiel en fonction de la capacité volumétrique, comme indiqué ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, si je compare finalement l'iode I- à I3- avec le couple Br-Br2, vous voyez que le couple définitivement Br-Br2 va vous donner un avantage en termes de potentiel. Par contre, vous voyez que la capacité volumétrique est relativement faible, pour la bonne et simple raison, c'est que la solubilité des molécules de brome sont relativement faibles et ne dépassent pas, je dirais, 1 molaire. Ici, vous avez les cyclovoltammogrammes pour le cas de I-, I3- et S2, S2-, S2-, puisque dans ce cas, on va utiliser tout simplement Li de S4. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, effectivement, on va avoir des avantages à utiliser ces systèmes avec l'UOT. Alors, ces avantages, eh bien, on peut les concrétiser et les voir sur cette courbe, où dans ce cas, vous avez la description d'un accumulateur basé sur les polysulfures et sur les couples iodure et triiodure, avec les électrolytes qui sont indiqués ici. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsqu'on va augmenter la teneur de iodure, eh bien, on va dans ce cas obtenir des capacités volumiques beaucoup plus importantes. Les courbes de cyclage sont indiquées ici. Et j'en profiterai pour faire remarquer ici, c'est que dans tous ces systèmes, je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais l'efficacité énergétique n'est pas géniale. C'est-à-dire qu'on déplace, on dépasse 85, 90, mais on dépasse rarement 90. Et ça aussi, c'est une limitation sérieuse à tous ces systèmes de redox flow. Mais si on compare le système final, toujours pareil, avec la référence qui sont les batteries redox flow au vanadium, eh bien on s'aperçoit qu'on peut avoir la même énergie volumétrique, 43,1. Par contre, le système est relativement moins coûteux comparé au système au vanadium. D'où c'est un avantage, je dirais, de ces technologies par rapport au système au vanadium. Alors ensuite, eh bien, on peut utiliser ces systèmes, et ça a été fait, ça a été publié en 2015, un papier de Nature Communication, où dans ce cas, eh bien, on peut coupler, je dirais, l'électrode de zinc avec l'électrode d'iodure. Et là, je dirais, l'avancée, qui est quand même conséquente, c'est la première fois que vous voyez ça, c'est-à-dire que maintenant, eh bien, on va utiliser le même électrolyte, si je peux dire, la même composition pour le catholyte et l'anolyte. C'est-à-dire qu'on va utiliser des solutions de ZnI2. Et ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, il y a un avantage énorme au niveau de l'électrolyte et au niveau finalement final, rappelez-vous de l'équation que j'ai mise auparavant, sur l'énergie volumique. D'où par conséquent, le système fonctionne comme indiqué ici, on va jouer tout simplement sur un dépôt de zinc eh bien, à l'anode et une oxydation de I- à une oxydation de I- à I3- à l'électrode positive. Les courbes ou les cyclovoltammogrammes se retrouvent ici. Vous pouvez voir ici qu'on aura un potentiel de 1,3 volts. Et ici, vous avez un graphe relativement intéressant dans lequel il y a la densité d'énergie en fonction de la concentration. Et vous pouvez voir qu'on peut obtenir, dans le cas de ces systèmes, eh bien, dans ce cas, des densités d'énergie allant aux alentours de 150 watts par litre. Et avec, si on joue avec la solubilité limite, on pourrait même obtenir 300 watts par litre, qui se rapprocherait relativement des batteries à ion lithium. Mais une fois de plus, regardez, on a toujours des rendements coulombiques qui sont relativement corrects, mais la difficulté, c'est le rendement tout simplement énergétique. Vous voyez qu'en ces systèmes, il n'est que de 80%. Et ça, c'est un problème, je dirais, récurrent à toutes ces technologies. Ensuite, eh bien, la question, c'est comment on peut augmenter encore cette énergie volumique dans ces systèmes avec le zinc et le polyiodure. Et là, il y a, je dirais, quelque chose de relativement intéressant si on regarde les équations qui vont régir ce système, cette oxydation de I- en I3-. Et en effet, je vous ai mis trois équations ici. La première, eh bien, c'est I- qui va directement être oxydé en iode. Cet iode eh bien, va tout simplement être en réaction d'équilibre avec I3-, mais on a une large constante d'équilibre, un excès de I3-, ce qui fait que finalement, la quantité de I2 est relativement faible. Et on forme ce complexe I2-I-. Et si on poursuit, eh bien, on peut avoir cette oxydation de I3- en 3,5 de I2, mais dans ce cas, eh bien, cette dernière conversion, je dirais, est irréversible. D'où par conséquent, bilan, c'est-à-dire qu'on n'utilise que 2/3 de l'iode qu'on va mettre dans notre système. C'est-à-dire qu'un tiers est perdu dans cette réaction indiquée ici. D'où l'astuce de certains chercheurs ont été tout simplement de combiner cela avec tout simplement du bromure de zinc. Ou, dans ce cas, lorsqu'on va faire les réactions, je vais la mettre ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement stabiliser l'iode par le bromure. Ce qui fait que maintenant, eh bien, on va pouvoir utiliser avoir un rendement beaucoup plus important, puisqu'on va avoir 6 électrons en présence de brome pour 6 iodes, alors qu'on a 4 électrons seulement dans le cas de l'iode seul. Ce qui fait qu'on a une augmentation, si je peux dire, de 1 électron pour 136 grammes, alors qu'on avait 1 électron pour 186 grammes. Et ça, eh bien, c'est une astuce qui permet, une fois de plus, d'augmenter l'énergie volumétrique de ces systèmes redox flow basés sur le couple zinc polyiodure. Les performances sont indiquées ici. Alors voilà le système, comment il se montre. C'est une schématique du système. Vous avez, vous voyez ici, le bromure de zinc et bromure d'iode, et le zinc iodure, avec, dans ce cas, le zinc qui va tout simplement rester du côté de la node et de l'autre côté, le couple I3-I-. Alors, les courbes électrochimiques sont indiquées ici. Et bien sûr, l'astuce en ce cas, c'est tout simplement de faire en sorte de limiter le potentiel ou la fenêtre électrochimique. Parce que vous ne voulez pas directement toucher dans le brome et avoir les difficultés associées à l'aspect corrosif du brome. Ce qui fait qu'on va tout simplement cycler ces systèmes dans un domaine de potentiel relativement bien défini, de façon à ne pas faire interagir cet atome de brome qui va stabiliser, je dirais, le complexe I2Br-. Et lorsqu'on regarde les performances, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a toujours pareil, très bonne efficacité coulombique, efficacité énergétique une fois de plus, moins de 90%. En termes de pouvoir de puissance densité, là aussi, on est autour de 50 milliwatts par centimètre carré. Et enfin, vous voyez ici, c'est qu'on peut quand même obtenir dans ce cas un système qui est 201 watts heure par litre. Et je crois que c'est certainement le record au niveau des systèmes qui peuvent être effectués en milieu aqueux, comme indiqué ici. Mais hélas, comme on va le voir par la suite, la densité d'énergie est qu'une seule figure parmi d'autres, et il y a beaucoup d'autres paramètres qui sont importants avant de considérer tout simplement un développement de ces accumulateurs. Enfin, pour terminer, si je peux dire un peu toutes ces astuces au niveau des systèmes redox flow, eh bien, je voudrais mentionner une fois de plus une autre approche qui a consisté à utiliser des électrolytes relativement denses juste en dessous de leur point de fusion. Alors, pour comprendre l'origine ou l'idée qui est derrière, sous-jacente à ces travaux, eh bien, il faudrait que je rappelle que finalement, dans l'électrolyte ou dans la partie active, dans les catholytes et les anolytes, vous avez finalement trois constituants. Vous avez le centre redox qui va vous donner bien sûr la capacité. Vous avez un sel pour assurer la conductivité ionique, un sel support. Et vous avez en plus un solvant pour dissoudre le sel et le matériau actif. D'où vous avez trois constituants. Et l'astuce en toutes les recherches, c'est bien sûr d'éliminer un, voire deux de ces constituants. D'où dans ce cas, ce qu'ont fait les chercheurs, c'est qu'ils ont tout simplement essayé d'utiliser une molécule organique qui puisse, dans ce cas, jouer le rôle de solvant ou également jouer le rôle directement de sel ou de cation. Alors la première chose que j'ai montré déjà, c'est que lorsque j'utilise l'iodure de lithium, eh bien qu'est-ce que je fais ? Avec l'iodure de lithium, je vais avoir mon couple redox I-I3-, et en même temps, je porte des cations et des anions, c'est-à-dire que je vais assurer la conductivité ionique. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, eh bien, je peux court-circuiter ici et je fais 1 et 2 en une seule étape. De tout cela, c'est un avantage au niveau énergie volumétrique, raison pour laquelle on avait obtenu des valeurs jusqu'à 200 watt-heure par litre. Maintenant, on va regarder l'approche dans laquelle on va finalement essayer de combiner 1 et 3, c'est-à-dire avoir un solvant qui va être actif électrochimiquement et qui va également pouvoir, dans ce cas, jouer ou dissoudre, le sel support. D'où on va, dans ce cas, prendre des solvants qui sont des ferrocène-ferrocinium. Mais le ferrocène-ferrocinium a, je dirais, un point de fusion aux alentours de 170 degrés, d'où il faut abaisser ce point de fusion. Et pour l'abaisser, on va tout simplement fonctionnaliser par ces groupes méthyl. Et on va directement obtenir diméthylferrocène-ferrocinium. Dans ce cas, on a une température de fusion de 40 degrés C. Et on va faire les manips qui sont faites à une température légèrement supérieure pour avoir une densité relativement importante. Et en faisant cette astuce, vous voyez que là aussi, on arrive directement à se positionner relativement correctement au niveau des performances d'un tel système. Tout ça, c'est des travaux qui se font, vous voyez, à diversifier des approches en ce domaine. Une autre approche que je voudrais vous mentionner également, parce qu'elle est assez originale, qui va constituer aussi à jouer avec ces trois composants ici. Et dans ce cas, eh bien finalement, on va essayer d'utiliser un matériau qui va être directement actif au niveau électrochimique. Et autant pour le catholyte que pour l'anolyte. Et dans ce cas, eh bien on va utiliser ces deux molécules. Et ça, c'est des travaux qui ont été faits au MIT, il y a de cela un ou deux ans, où ils ont utilisé cette combinaison de molécules, dans laquelle on va avoir ces complexes, si je peux dire, du fer, qui vont être des interoxydations différents et qui vont pouvoir jouer le rôle de catholyte et anolyte. Mais pour que le système fonctionne, eh bien, bien sûr, il faut que les cations, que ce soit dans l'état oxydé ou dans l'état réduit, eh bien, restent à l'état plus. Ils vont pouvoir, dans ce cas, bien sûr, conduire, je dirais, avoir une conductivité ionique, et ils partagent également le même anion qui est BF4-. D'où, dans ce cas, eh bien, on va pouvoir avoir qu'un seul électrolyte, si je peux dire, avec des avantages relativement considérables. Tout d'abord, au niveau conductivité ionique, eh bien, on a une meilleure conductivité ionique avec ces genres d'additifs, comme indiqué ici, où on a des conductivités ioniques qui sont supérieures à lithium BF4. Pour la bonne et simple raison, c'est que dans le cas lithium BF4, on a un acide dur qui directement est couplé avec une base forte. Alors que dans ce cas, on a des cations qui sont nettement plus volumineux et par conséquent, il y a des conductivités ioniques relativement importantes. D'où, dans ces systèmes, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a les réactions comme indiqué ici. Vous avez une fois de plus les cyclovoltammogrammes pour les molécules dont je vous ai mentionné, avec ici le mélange complet. Vous voyez qu'en ce cas, vous avez les deux vagues qui sont séparées par 1,8 volts et qui va être tout simplement le potentiel de sortie de votre accumulateur. Et lorsqu'on regarde les courbes électrochimiques, eh bien, on a ce potentiel de sortie avec, dans ce cas, eh bien, des capacités volumiques qui sont relativement faibles, mais une fois de plus, on a des efficacités coulombiques relativement faibles. Donc voilà des travaux, je dirais, qui ne sont pas, je dirais, spectaculaires au niveau performance, mais je trouve que l'idée derrière cette approche relativement élégante, c'est-à-dire celle d'aller chercher finalement, dans ce cas, des sels actifs et qui ont des états d'oxydation cationiques élevés, avec de plus, dans ce cas, eh bien, certains avantages au niveau de partager un anion. Et enfin, si je peux dire, le dernier système redox flow qui fait, je dirais, pas mal de bruit ces jours-ci et qui date, je crois, des travaux d'un an, ce sont des systèmes redox flow qui sont basés sur le système air-soufre. On a eu des batteries lithium-air, maintenant on a un système air-soufre et il semblerait ici que l'histoire soit un peu plus intéressante. D'où, dans ce cas, vous voyez toujours également le système redox flow qui va coupler l'anolyte, ou dans ce cas, on va utiliser un polysulfure avec, qu'on va coupler avec l'oxygène ou avec l'air. Bien sûr, l'idée finale de tout ça, c'est d'avoir un système très bas coût. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement, dans l'état chargé, eh bien, on va tout simplement oxyder l'eau pour générer l'oxygène, et on va tout simplement, dans ce cas, réduire le lithium 2S4 en S2-. Et avec, bien sûr, les réactions inverses durant la décharge. Si on regarde les courbes électrochimiques, eh bien on a, dans ce cas, vous avez tous compris que l'efficacité énergétique n'est pas géniale, quand vous voyez directement l'espace entre les courbes de décharge et charge, mais ce système semble cycler et a une bonne performance en cyclage. Au niveau d'autres performances, c'est les résultats qui sont rapportés, dans lesquels on a, dans ce cas, des pics de densité de 2,3 milliwatts par centimètre carré, avec, bien sûr, alors tout cela est limité, je ne l'ai pas mentionné, c'est qu'on va utiliser, dans ce cas, une céramique, une fois de plus, qui est une lysicone, et qui a, bien sûr, des cinétiques relativement faibles. De nouveau, je vous ai mentionné le cyclage. Vous voyez qu'au niveau de la tenue en cyclage, il semblerait que ces systèmes se comportent relativement bien. Et je dirais aujourd'hui, ces systèmes font l'étude d'amélioration. Il y a même une compagnie qui s'est montée au MIT sur ces systèmes. Et il semblerait que dans une étude économique montre que de tels systèmes peuvent être attractifs, nettement performants au niveau du coût par rapport au système au vanadium et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que je voulais vous mentionner sur les systèmes Redox Flow, que je conclurai de façon générale à la fin, je dirais, de ce cours. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est passer finalement à la troisième partie de cet exposé et vous montrer comment on va pouvoir couper ces systèmes Redox Flow avec des systèmes de recharge et ainsi de suite. Alors, quelle est la problématique et quelles sont les difficultés? Alors, pour ce faire, eh bien, si on regarde tous les systèmes de batteries que l'on a vus à ce jour, que ce soit des batteries à ion lithium ou des batteries Redox Flow, eh bien, c'est des systèmes qu'on va pouvoir recharger à condition qu'on soit tout simplement dans des zones urbaines où on a tout simplement des grilles et ainsi de suite. Par contre, si on va dans des zones qui sont, je dirais, retirées, eh bien, dans ce cas, il est impossible directement de recharger ces systèmes. D'où, par conséquent, il faut, à tout prix, avoir des solutions. Et des solutions, eh bien, c'est tout simplement de coupler au photovoltaïque. Et le couplage de batteries plastiques au photovoltaïque, c'est des projets qu'on avait menés il y a de cela 10 ans, à l'époque, quand j'étais aux États-Unis. Mais là, c'est tout simplement, finalement, là, je dirais, la mise de deux cellules assemblées côte à côte dans un même paquet pour essayer directement de faire l'affaire. Par contre, des travaux beaucoup plus élégants récemment ont consisté tout simplement à développer des batteries photorechargeables. Et c'est un peu ce que je voudrais directement vous montrer maintenant et vous expliquer ce qui se fait dans ce domaine. Alors, qu'est-ce qui se fait dans ce domaine et pourquoi et comment faire de ces batteries photorechargeables? Alors, batterie photorechargeable, bien, ça veut simplement dire qu'en ce cas, c'est utiliser la lumière pour tout simplement pouvoir recharger sa batterie. C'est-à-dire jouer finalement sur le fait qu'on a des composants d'insertion et voir si, par la lumière, eh bien, on peut insérer ou désinsérer du lithium dans ces matériaux. Alors, pour cela, eh bien, il va falloir finalement coupler deux matériaux et voir leurs propriétés. Alors, d'un côté, on a les matériaux d'électrode, dans lesquels eh bien, on a un solide en contact avec un électrolyte qui contient des ions lithium, et ça, on connaît bien puisqu'on l'a bien traité. Et de l'autre côté, il y a d'autres matériaux, des oxydes ou autres, qui vont, dans ce cas, profiter de la jonction semi-conducteur liquide pour générer des réactions de photoélectrolyse, photocatalyse, et générer des réactions redox. Eh bien, c'est pour voir est-ce qu'on peut utiliser tel matériau. Et il y a des travaux, je dirais, antérieurs, je pense à les années 1984, qui ont montré effectivement qu'on pouvait extraire une extraction proto-induite de protons dans le composé T-iode. Eh bien, c'est un peu les mêmes méthodes qui vont être utilisées aujourd'hui dans le cas du lithium. Et la question qui se pose, est-ce qu'on peut faire cette même chose, cette même, je dirais, expérience, c'est-à-dire avoir une photo-extraction du lithium dans de tels composés. Alors, pour cela, eh bien, il faut prendre des électrodes qui ont, je dirais, qui peuvent utiliser à la fois comme électrode positive, mais également comme semi-conducteur. Et bien sûr, le matériau de choix, c'est l'anatase TiO2. Et vous avez ici, tout simplement, un film qui a été fait par une méthode, je pense, Sol-Gel, dans lequel vous avez des pores bien contrôlés, ainsi de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on fait ça dans le cas d'une expérience, dans ce cas, vous avez la cellule. On n'a plus les cellules qu'on a dans le cas des batteries à ion lithium, des cellules Schwarzlock métalliques, ainsi de suite. Vous avez cellules en verre. Avec l'avantage, c'est de voir l'évolution de la coloration de ces films lors de l'intercalation, voire de l'illumination. Et effectivement, si on fait ces expériences, et c'est des manips d'ailleurs qui ont été menées, je dirais, à l'université à Pierre et Marie Curie, où on voit dans ce cas que si on prend le système LIX-TiO2, eh bien, si on cycle électrochimiquement ce système en fonction du lithium dans le noir, eh bien, on a, dans ce cas, une capacité qui est tout simplement moindre que dans le cas sous illumination, comme indiqué en rouge. D'où la question, finalement, c'est pourquoi cela et que se passe-t-il? Alors, pour expliquer cela, eh bien, on va directement se focaliser plus sur différentes parties de ce système électrochimique et voir si on peut différencier ce qui se passe à la cathode ou à l'anode, ou tout simplement en réduction ou en oxydation. D'où vous avez ici directement un cyclo-voltammogramme. Et ce qu'on va faire en ce cas, c'est s'arrêter à ce potentiel et ensuite mettre la cellule sous illumination ou sous obscurité toutes les minutes. Et on va voir l'évolution du courant lorsqu'on fait cela. Bien, vous voyez ici que lorsque je suis en oxydation, j'ai tout simplement, dans ce cas, bien, un photocourant. On va pouvoir ce photocourant, enfin, on va pouvoir directement voir ce courant. Maintenant, si je mets directement l'illumination, vous voyez que dans ce cas, le courant eh bien, augmente, c'est-à-dire j'ai une oxydation plus forte. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, je vais avoir généré ou des trous, et ces trous vont tout simplement vont entraîner une oxydation de Ti plus 3 en Ti plus 4. Et c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire que dans ce cas, eh bien, avec un photon, je vais créer tout simplement une paire électron-trou, et dans ce cas, eh bien, le trou va me servir à oxyder titane plus 3 en titane plus 4, et dans ce cas, tout simplement, à avoir, si je peux dire, une extraction du lithium. D'où, on peut regarder également la réduction. Si je regarde la réduction, eh bien, bien sûr, vous avez en ce cas un courant négatif. Lorsque je vais directement, dans ce cas, mettre sous illumination, vous voyez qu'en ce cas, ce courant devient plus négatif et se stabilise. Ça veut dire que là aussi, je vais avoir tout simplement, je vais générer de nouveau par ces trous qui vont oxyder le Ti plus 3 en Ti plus 4 des sites vacants pour le lithium qui vont être tout simplement remplis lors de la réduction. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas, eh bien, je vais avoir des courants de réduction qui seront beaucoup plus importants que mes courants d'oxydation. Et tout cela, eh bien, ça peut se voir très bien, et c'est très flagrant et très spectaculaire sur cette courbe, où vous voyez, dans ce cas, eh bien, le cyclage ou la décharge d'une telle cellule dans le noir, alors qu'on a, dans ce cas, sous illumination. Et vous voyez qu'en ce cas, on a tout simplement des capacités qui sont relativement gigantesques, qu'on peut aller jusqu'à 400 mA par gramme, ainsi de suite. D'où, ça veut dire que théoriquement, eh bien, lors de la réduction, je vais automatiquement réduire mon composé comme on le fait classique dans les batteries à ion lithium, mais en même temps que je le réduis, eh bien, lorsqu'il va être sous illumination, je vais automatiquement générer des états de titanium plus 4. D'où, continuellement, je vais pouvoir mettre du lithium dans mon composé. D'où, si on peut rêver, eh bien, ça veut dire que cette batterie devrait tourner, ou devrait, je dirais, fonctionner indéfiniment. Mais malheureusement, là aussi, il y a beaucoup, je dirais, de problèmes secondaires. Malgré une recherche, je dirais, élégante, on est encore très loin de pouvoir faire ou de pouvoir réellement capitaliser sur ces avantages. Et une des premières questions lorsqu'on fait ça, c'est qu'à dire, je vous ai parlé de le photon qui va créer une paire électron-trou. Les trous, on sait ce qu'ils font. Ils vont tout simplement aller oxyder Ti plus 3 en Ti plus 4, mais il y a le quid des électrons photogénérés. Et là, à ce jour, eh bien, on ne sait pas encore, ou les chercheurs ne savent pas encore ce qui se passe. Il y a eu des travaux, parallèles sur des systèmes un peu similaires, notamment des systèmes dans lesquels les chercheurs ont utilisé LiFePO4, où dans ce cas, ils ont mis directement un colorant pour activer ce système, électron-trou. Et dans ce cas, ils prétendent que ces photons générés, ou ces électrons générés, vont tout simplement, dans ce cas, créer une SEI à la surface du lithium qui se forme par oxydation de O2 en O2 moins. C'est-à-dire qu'on a dans ce cas une oxydation de O2 en O2 moins. Il y a également d'autres travaux qui ont été faits dans le cas du sodium. La même chose arrive dans le cas, se passe dans le cas du sodium, où on a le composé ici NaxMoO3, où on peut là aussi avoir une insertion du sodium qui est forcée par la lumière. Et là aussi, les photons générés vont, dans ce cas, être utilisés pour l'oxydation de l'eau. Donc voilà, si vous voulez, les systèmes qui sont utilisés ou qui sont au niveau du laboratoire pour montrer cette possibilité de photocharmabilité des batteries lithium et ainsi de suite. Et on va voir que le même principe va s'appliquer dans le cas des systèmes à flux circulant, c'est-à-dire dans le cas des systèmes redox flow. En effet, vous allez voir ici pourquoi cela se fait. Eh bien, là aussi, si je regarde de façon simple ce qu'on essaie de faire, c'est que finalement, ce qu'on veut, c'est qu'on veut tout simplement convertir l'énergie et pouvoir la stocker. Donc voilà directement ce qu'on fait, ça tout le monde connaît cette photo. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire cela maintenant dans le cas des batteries ou des batteries à flux circulant ? Eh bien, pour faire cela, la même idée va consister tout simplement à connecter une batterie redox flow avec une cellule électrochimique et finalement les connecter à bon escient pour que l'une puisse stocker et l'autre fournir l'énergie et vice-versa. C'est ce qui a été fait dans ce système où vous avez finalement un dispositif qui va coupler une cellule photovoltaïque avec la jonction PN, comme indiqué ici, ou les deux photocathodes et photoanodes, avec, dans ce cas, un système à flux circulant. Ce qui va se passer ici, eh bien, on va utiliser les différentes sortes d'électrolytes, et là aussi, un photon va être absorbé. Ensuite, il va générer une paire électron-trou qui va aller entraîner des réactions d'oxydoréduction et qui va finalement entraîner l'oxydation et la réduction de ces anthraquinones avec de nouveau le même couple redox Br3-, Br-. Donc par conséquent, on va, durant la journée, si vous voulez, générer les espèces actives et ensuite, eh bien, on va tout simplement utiliser le circuit redox flow pour produire l'électricité. Et c'est un peu ce qui se passe, mais pour faire cela, eh bien, il y a quand même des choix relativement délicats des différents constituants, c'est-à-dire qu'il faut tout d'abord un semi-conducteur qui est un band gap approprié pour absorber une bonne partie de la lumière et avoir finalement un rendement relativement efficace. Et il faut bien sûr des couples redox qui vont avoir des cinétiques relativement rapides. Et c'est la raison pour laquelle eh bien, on va utiliser des quinones et le couple Br2, Br-, comme indiqué ici. Alors si on fait cela, eh bien, voilà les réactions qui se passent. Hein. Ces réactions que j'ai mentionnées, on a tout d'abord, lors de la photo photocharge, eh bien, on va tout simplement avoir une réduction de l'anthraquinone en H2 à DQS, et on va bien sûr avoir de l'autre côté une oxydation du brome, et, comme indiqué ici. Ces deux espèces sont ensuite stockées dans les tanks et sont ensuite envoyées vers le système redox flow pour produire tout simplement de l'énergie et de l'électricité. Et voyez ici les rendements. Alors bien sûr, les rendements, vous allez voir, ne sont pas gigantesques, ils sont relativement faibles. Mais on voit tout simplement la densité de courant qui maintenant est à 1 mA par centimètre carré, et on voit ici le potentiel en fonction de la capacité à 1 mA par litre, on n'est plus à des ampères-heure par litre. Un système comme ça, eh bien, ça se représente comme indiqué ici. Vous avez ici les différentes parties du système, vous voyez. Vous avez la cellule de photoélectrolyse qui va produire les espèces actives, si je peux dire, qui va les stocker dans ces tanks, et ensuite, eh bien, ces espèces vont être envoyées dans le circuit redox flow pour produire l'électricité. Vous avez la photorecharge et la photodécharge qui est indiquée ici. Au niveau rendement énergétique, eh bien, comme vous pouvez le voir ici, dans ce cas, on a le rendement total qui est le produit de rendement de la cellule photovoltaïque par le rendement du système redox flow. Le rendement du redox flow, on l'a vu énergétiquement, il y a une autour de 70 à 80%. Au niveau de l'efficacité de conversion solaire chimie par la cellule photovoltaïque, vous êtes aux alentours de 5,9%. Et à la fin, eh bien, vous arrivez à un rendement de 3,2%. Okay. D'où, si vous voulez, c'est la difficulté de tous ces systèmes qui sont, une fois de plus, très élégants, mais qui sont, d'un point de vue pratique, très peu efficaces. Alors, d'autres systèmes ont été développés, je ne vais pas en faire énumérer 50, je vais en mentionner certainement deux de plus, quand même, car ils sont relativement intéressants, et c'est des recherches, je dirais, de pointe. Là, on a un système qui va utiliser, toujours pareil, photorechargeable, avec deux couples redox, avec, dans ce cas, un couple redox R1-O1 et O2-R2. Et dans ce cas, on va utiliser une cellule de Grenzel, qui est c'est-à-dire une cellule qui va utiliser un colorant qui va être activé. Et dans ce cas, là aussi, ce qui est vraiment important, le choix des matériaux qu'on va utiliser. Mais il y a certaines conditions, c'est-à-dire que pour que ces deux systèmes fonctionnent, je dirais de façon concertée, il va falloir ajuster le potentiel des couples redox, que ce soit catholyte, anolyte, avec le potentiel ici de la molécule qui va transporter du colorant. Parce que qu'est-ce qui se passe dans ces systèmes ? C'est que lorsque je vais envoyer un photon, eh bien, je vais tout simplement exciter ce colorant, avoir un état excité, libération d'un électron qui va passer à la bande de conduction de TiO2 et qui va tout simplement passer dans le circuit pour aller entraîner une réaction de réduction électronégative. D'où, c'est pour cela que, qu'on va choisir les couples indiqués ici. On va prendre cette molécule que j'appellerai DMFC, qui va être à l'électrode négative. On va prendre l'iodure I-, I3-, et vous voyez, son potentiel a ou doit être inférieur à celui du colorant. Car bien sûr, lorsque on va restabiliser le système, il va y avoir une oxydation de I- à I3- avec un électron qui va provenir du colorant. Et ensuite, eh bien, également au niveau de l'électron négatif, il y a des conditions à respecter au niveau du niveau Fermi de la photoanode TiO2, de façon que les électrons, les espèces qui vont être, je dirais, oxydées provenant de l'anode puissent être réduites à la photoanode. Bilan des réactions, eh bien, voilà ce qui se passe. Comme je vous l'ai mentionné, on a d'abord l'excitation de la dalle qui va donner un électron sur TiO2 qui va aller directement à la bande de conduction. Ensuite, à la négative, eh bien, il va y avoir, dans ce cas, eh bien, tout simplement I- pendant I3- avec l'électron qui va directement entraîner une réaction de réduction de DMT. Donc voilà ce genre de système qui se font aujourd'hui. Et là aussi, les rendements sont relativement faibles avec le potentiel de sortie aussi très faible. Enfin, un autre système qui, celui-là, je dirais, est plus classique, c'est tout simplement un système qui est basé sur le couple iodure I- I3- avec les matériaux solubles de type Li2 plus X WO4. Alors là, c'est exactement la même chose. Vous avez de nouveau plus un colorant. La même chose qui se passe, vous voyez ici, je vais avoir tout simplement, dans ce cas, au départ, je vais directement co-circuiter en connectant l'électrode C avec A. J'ai un photon qui va arriver, qui va exciter mon colorant avec l'électron qui va dans la bande de TiO2, qui va directement à l'électrode négative, ou dans ce cas, eh bien, il va y avoir une réduction avec lithium 2 plus XWO4. Ensuite, eh bien, tout cela va avoir lieu au niveau du système redox flow pour avoir les réactions inverses comme indiqué ici. D'où, dans ce cas, les espèces lithium 2 plus X et qui vont être les espèces, je dirais, I3- vont ensuite directement, réversiblement, être transformées en lithium 2WO4 et I-. D'où ce système, eh bien, il donne, comme vous pouvez voir ici, des potentiels qui vont, je dirais, s'étaler de 0,6 à 0,2 volts, avec, vous voyez, des capacités en décharge qui sont relativement, je dirais, très 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 faibles. Okay. D'où là aussi, c'est la validation d'une preuve de concept, mais l'aspect pratique, je dirais, est fortement questionnable. D'où voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau des couplages entre les systèmes redox flow et les systèmes de cellules photovoltaïques. Et juste une dernière application, et vous aurez un cours là-dessus, je crois que c'est le cours qui aura lieu le 4 mars, sur une autre application des systèmes redox flow. Cette application, eh bien, elle est un peu originale, comme vous allez voir ici. Vous avez ici un système redox flow qui est relativement classique. C'est une batterie redox cerium-vanadium à milieu aqueux et acide, comme mentionné ici. D'où, durant eh bien, la charge, vous avez formation de cerium plus 4 et vanadium plus 2, qui est la chose la plus classique. Par contre, ce qui va se passer, c'est au niveau de la décharge. Je peux faire la décharge de façon classique, et là, j'ai un système redox flow cerium-vanadium. Par contre, je peux faire directement la décharge de façon différente. Ça veut dire qu'en ce cas, maintenant, si je fais la décharge, vous voyez, dans lequel je vais, dans ce cas, eh bien, je vais former du cerium plus 4 et vanadium plus 2, je vais envoyer maintenant ces espèces sur des lits catalytiques avec des catalyseurs à base d'iridium ou des catalyseurs directement à base de molybdène. Et lorsque je fais ça, eh bien, je vais tout simplement réduire le cerium plus 4 en cerium plus 3, mais également à ce côté-là, oxyder l'eau pour générer de l'oxygène. Et de la même façon, eh bien, lorsque je fais ça maintenant avec du vanadium plus 2 que j'envoie tout simplement à travers ce lit catalytique, en présence de catalyseurs de molybdène, eh bien, je vais générer de l'hydrogène. Ça veut dire que j'ai un système dans lequel je peux directement soit utiliser en tant que production d'électricité ou également en tant que production d'hydrogène. Et ça, c'est des systèmes qui sont développés en Suisse et dont Hubert Giraud vous parlera, je pense, dans un cours. Donc voilà, si vous voulez, un peu résumé ce que je voulais vous raconter sur les systèmes redox flow. Et je voudrais maintenant conclure cet exposé par deux transparents. Le premier, pour montrer un peu l'état de la situation des recherches dans le redox flow, je dirais dans le monde, ce qui se passe. Et si on regarde ce qui se passe, eh bien, définitivement, c'est le système redox flow au vanadium qui est le plus mature. Il y a des démonstrateurs, mais il n'y a pas, si je peux dire, encore de commercialisation. Vous voyez ici l'évolution des programmes en Chine, où il y a des progrès, je dirais, soutenus sur le système redox flow, mais là aussi, la difficulté essentielle, à la fin, c'est d'avoir un système rentable d'un point de vue économique. Maintenant, au niveau recherche, eh bien, dans ce cas, vous voyez que la plupart des brevets, alors la plupart des brevets, j'exagère, mais enfin, vous voyez directement le classement des différents pays dans le monde qui regardent ces systèmes. Vous voyez le nombre de brevets qui ont été pris en Chine, aux USA, en Europe, et ainsi de suite. D'où ma question finale, maintenant, après ce cours de 1h30, je dirais, sur le redox flow, quel est le message final que je voudrais transmettre? Alors, ce message final, eh bien, il va être tout simplement indiqué, il y en a plusieurs d'ailleurs, dans ce transparent. Où, comme je l'avais dit, au jour d'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est le coût. Vous avez ici le coût de la batterie en dollars par kilowattheure avec la durée de décharge que je mets en heure, que je mets énergie ou puissance pour découpler entre le redox flow qui peut avoir l'avantage de puissance et l'avantage d'énergie. Bon, ce que vous devez voir là-dessus, c'est que, bon, définitivement, les activités scientifiques aujourd'hui sont foisonnantes dans le domaine des redox flow où, comme vous avez pu le voir, de nouveaux concepts, de nouvelles expériences sont réalisées en étudiant beaucoup de couples électrochimie. À travers cet exposé, vous avez pu vous apercevoir aussi que les résultats au niveau performance ne sont pas probants. Pour la plupart du temps, tout d'abord, la plupart des manips ou des résultats ne considèrent même pas une cellule complète. En plus, si une cellule complète est considérée, les manips sont faits en statique et non en dynamique. D'où il est très difficile de voir où on en est. Ce qui est très important, c'est que malgré que les batteries redox flow vanadium, c'est la technologie la plus mature, eh bien, comme on peut voir ici sur ces courbes, eh bien, elles n'ont, je dirais, presque aucune chance d'être commercialisées à grande échelle un jour. Pour la bonne et simple raison, c'est que, je dirais, le troublemaker, ou le problème, c'est le futur du lithium-ion, c'est-à-dire que le prix du lithium-ion descend continuellement. Et ce qui fait que certains accumulateurs n'ont aucune chance de pouvoir atteindre les valeurs qui sont mentionnés ici. Par contre, je dirais que ces systèmes ont des domaines d'application. Et là, les domaines d'application du redox flow, il faut bien faire attention, c'est des applications relativement limitées. Un redox flow ne sera jamais utilisé dans un véhicule électrique. Il sera utilisé, bien sûr, pour les applications réseau, mais pour les applications réseau, je dirais, plutôt stationnaires. Pour les applications, je dirais, régulation de fréquence, vous avez dans ce cas des besoins de 4 heures d'énergie, c'est encore une fois de plus les technologies lithium-ion qui seront là. D'où par conséquent, le domaine d'application sera relativement restreint, mais il y a quand même, je dirais, des chimies redox aqueuses qui doivent être trouvées, leur aspect pratique démontré. On a vu l'avantage des quinones en termes de coût, on a vu aussi l'avantage des éléments de commodité comme le soufre ou le fer, et ainsi de suite. Et vous voyez qu'en ce cas, les études économiques montrent qu'effectivement ces systèmes peuvent devenir compétitifs. Et enfin, la dernière filière que j'ai mentionnée, sur laquelle beaucoup, quand je dis beaucoup, j'exagère un peu, certains groupes s'excitent, est attractive, mais elle est truffée d'incertitudes, avec de plus des obstacles économiques à surmonter. D'où je conclurai ce cours en disant que le regain d'intérêt pour les batteries redox flow peut conduire à une technologie prometteuse pour le stationnaire si l'on identifie des chimies bas coût pour un déploiement étendu. Pour cela, une recherche systémique et non ciblée sur un des composants est nécessaire. Donc voilà, si vous voulez, à peu près ce que je voulais vous transmettre sur ces systèmes redox flow à l'heure actuelle et où vont les recherches. Et avec ça, eh bien, je souhaite vous remercier pour votre attention.